Un autre passage, Joël 4, verset 1er. Dans d'autres Bibles, il y a une différente séparation des chapitres. C'est chapitre 3, verset 1er. Mais il y a les mêmes paroles dedans, n'est-ce pas? Alors là, le Messie parle lui-même. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, de nouveau, un terme typique, technique des derniers jours. Alors, car voici en ces jours-là et en ce temps-là, où je rétablirai le sort de Juda, des Juifs, et de Jérusalem. Donc, vous voyez, les derniers temps, c'est donc l'époque où le sort néfaste, terrible du peuple juif changera. Je répète, car voici en ces jours-là et en ce temps-là où je rétablirai le sort de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Elles ont partagé mon pays. Vous voyez? Donc le Messie dit, dans les derniers temps, où le sort des Juifs et de la ville de Jérusalem sera changé, alors là, le Messie sera là, dans la vallée de Josaphat, qui est d'ailleurs un autre nom pour la vallée de Cédron, qui sépare le mont des Oliviers du mont du Temple à Jérusalem de l'Est. Donc le texte parle du Messie qui sera sur la terre, à Jérusalem. Et dans quelle époque? Dans l'époque où, justement, le sort des Juifs sera changé. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, l'époque dans laquelle nous vivons est remarquable. Car nous sommes des témoins oculaires que de l'État juif moderne qui a été fondé en 1946. Donc, en quelque sorte, de notre époque historique. Et nous sommes des témoins oculaires comme des Juifs des cinq continents du monde sont rentrés au pays des ancêtres. Donc, cette époque est remarquable puisque, selon la Bible, cette époque est appelée les derniers temps. Et on peut dire, cette époque a commencé depuis, retenez cette date, 1882, car c'est la date de la première alia, comme on dit en hébreu, la première vague d'immigration de juifs au pays des ancêtres. Et une deuxième vague a suivi, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ce point déjà préparé, introduit dans cette préface à cette conférence, nous amène au premier point, où c'est notre première preuve que nous sommes dans les derniers temps. 1. Le retour des Juifs, 1882 jusqu'à 2006. 4 millions de Juifs des 5 continents du monde, de plus de 100 pays différents sont rentrés au pays des ancêtres après 2000 ans. C'est donc un événement qui est dans l'histoire humaine unique. Mais cela a dû avoir lieu dans les derniers jours desquels les prophètes ont parlé il y a des millénaires. Voyez. Et je lis Ézéchiel 36, 24. Écrit au sixième siècle avant Jésus-Christ. Donc, avant la dispersion, des siècles avant la dispersion des Juifs parmi le monde entier. Et là, déjà, Dieu parle du retour. Et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre terre. Et je vais vous donner une trentaine de preuves ce soir. Pas plus, parce que vous allez voir, on n'a pas le temps. Je pourrais vous donner plus de 100 prophéties, plus une centaine de prophéties accomplies dans notre époque qui parlent dans la Bible des derniers jours. Mais une trentaine, je pense, ça suffit. Deuxième point, l'hébreu ranimé. 1881 à 1922. Vous voyez, en Ésaïe 19, un chapitre qui parle de l'Égypte dans les derniers jours et dans l'époque où le Messie sera revenu comme roi du monde. Et là, nous lisons en rapport avec l'Égypte, au verset 18, « En ce temps, on parlera même dans 5 villes égyptiennes la langue de Canaan. » C'est un passage remarquable. Vous voyez pourquoi? D'abord, il faut expliquer, la langue de Canaan, c'est un terme pour l'hébreu. Car l'hébreu est un dialecte cananéen. Abraham a appris la langue des Cananéens lorsqu'il est entré il y a 4000 ans au pays de la promesse. Mais le problème est le suivant. Après la destruction de l'État juif à l'an 70 ou dans la suite de l'an 70 après Jésus-Christ, les Juifs ont perdu, le peuple juif a perdu l'hébreu comme une langue parlée. L'hébreu est devenu une langue morte comme le latin. Pourtant, on peut encore apprendre le latin et lire des textes et comprendre des textes. Ainsi, on a utilisé l'hébreu pour lire la Bible, l'Ancien Testament, aussi pour les prières dans la synagogue et même dans la vie privée. Mais on n'a plus utilisé l'hébreu comme une langue parlée, aussi parlée dans les familles. Les Juifs dispersés dans le monde entier ont appris les langues des peuples où ils sont arrivés. Par exemple, en Europe, beaucoup on parlait le yiddish, qui est un dialecte allemand. Alors, le prophète dit, on va parler dans les derniers temps, l'hébreu. Mais vous vous imaginez, on n'a jamais vu dans l'histoire mondiale qu'une langue morte après plus de 1000 ans, dans ce cas à peu près 1600 ans, aurait été ranimée. Jamais. Eh bien, en 1881, Eliezer Ben Yehuda, un juif de l'Europe de l'Est, est arrivé en Palestine. Et il s'est dit, pour les juifs qui habitent ici, il faudrait retrouver la langue des ancêtres. Il faut que les juifs qui sont là en Palestine, comme on a appelé le pays d'Israël à l'époque, ne devraient pas parler le russe, ou le français, ou l'arabe, il devrait parler l'hébreu. Alors il s'est dit, je vais apprendre les gens à parler l'hébreu. Il a commencé à écrire donc un dictionnaire énorme où il a essayé de créer des nouveaux termes pour la vie moderne dans la langue hébraïque, si possible. Ce n'était pas possible, il a essayé de trouver une expression en arabe, puisque l'arabe est donc beaucoup lié à l'hébreu, c'est une langue sémite. Et il a édité un journal, Hatzvi, et par ce journal, les gens qui ont lu ça en Palestine ont appris à parler l'hébreu moderne. Il a donné l'école en hébreu. D'ailleurs, les orthodoxes, les vraiment juifs religieux, ils étaient absolument contre Eliezer ben Yehuda. Ils ont trouvé, mais comment utiliser la langue sainte pour des choses profanes de la vie journalière? Il a continué. Il a été même, plus d'une fois, excommunié de la synagogue. Il a continué. Donc pas parce qu'il a pensé c'est l'accomplissement de la prophétie, mais parce que c'était un idéaliste, un sioniste de l'époque, vous voyez. Eh bien, on a aussi parler dans les jardins d'enfants, on a commencé à parler l'hébreu, et voilà, les enfants sont rentrés à la maison, ils ont dit, Shalom, Abba, Shalom, Mima, Manishma, Kol Beseder, Zekach Yafel, Letzachekim Yeladim Acharim, Began Yeladim. Et ainsi, les parents ont appris à travers les enfants comment on parle l'hébreu aujourd'hui. Et dans les années 1920, l'hébreu est devenu une langue vivante. On a entendu de nouveau à Jérusalem, dans les ruelles, la langue des anciens prophètes parlait. Et aujourd'hui, c'est une langue moderne qui fonctionne dans tous les domaines, la vie journalière jusqu'à la vie scientifique. Deuxième point, qui prouve que nous sommes dans les derniers temps. Troisième point, achat de terrain 1882 à 1940. Les premières décennies du retour des Juifs étaient caractérisées par l'achat de terrains. C'est-à-dire du terrain désertique, de désert. Et voilà, des Juifs ont acheté à des prix excessivement élevés des territoires en Palestine, de la part surtout de grands propriétaires arabes à Damas et à Beyrouth et au Caire. Et voilà, le prophète Jérémie, 600 avant Jésus-Christ, écrit 32-43, « Et on achètera des champs dans ce pays. On achètera des champs à prix d'argent et on écrira les lettres et on les scellera et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne et dans les villes de la Shephela et dans les villes du Negev, car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. » Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons exactement présenter que chaque mot s'est accompli à la lettre. Par exemple, ils vont acheter donc du territoire dans le pays de Benjamin. Le tribu de Benjamin avait dans l'Ancien Testament son territoire au nord de Jérusalem. Et exactement, comme vous voyez sur la carte, au nord de Jérusalem, on a acheté énormément de territoire. Ensuite, aux environs de Jérusalem, autour, largement autour de Jérusalem, on a acheté des territoires. Dans les villes de la montagne, vous voyez, les montagnes sont entre Jérusalem et Hébron, et là, ils ont acheté du terrain. Et dans les villes de la Shephela, est donc la région ouest, vers la mer, là où il y a la bande du Gaza et le territoire de Tel Aviv, et là, on a acheté énormément de territoires. Ensuite, dans les villes du Negev, le nom du désert au sud d'Israël, et voilà, au sud de Beersheba, on a acheté des grands territoires. Chaque mot s'est accompli dans notre époque. Point 4. Les villes vétérotestamentaires rebâties, 1882 à 2006. Amos 9, 14 à 15, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu parle. Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël. Et ils bâtiront les villes dévastées. Et y habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Et ils feront des jardins et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre. Et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre, que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes des témoins oculaires que des villes de l'Ancien Testament, des villes vétérotestamentaires, sont aujourd'hui des villes modernes, rebâties, des villes qui sont pleines de vie. Également là, chaque mot s'est accompli devant nos yeux. Point simple. Le pays transformé. Donc les Juifs des premières immigrations sont rentrés dans un pays dévasté. Et voilà, ils sont devenus donc des paysans. Ils ont fondé des kibboutzis. Et voilà, ils sont devenus donc des paysans, des moshavim. Et ils ont labouré la terre. On a planté 200 millions d'arbres. Ainsi, le climat a changé, même en bénédiction pour les peuples autour d'Israël. Aujourd'hui, on peut de nouveau compter au temps de la pluie comme à l'époque de l'Ancien Testament. Et voilà, Israël est un pays qui fait même l'exportation de fleurs au monde. Et voilà, vous lisez en Ézéchiel 36, 34. Et le pays désert sera labouré.